Eh bien, chers amis, nous ouvrons notre Bible dans le livre de Daniel pour en relire encore. Bonne manière d'apprendre à mémoriser lors d'une série. Donc Daniel 6, chapitre 6. Versets 1 à 11 ou 2 à 12. Je lis donc au verset 1er. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes ou gouverneurs des provinces de l'Empire perse qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle, loyal, et qu'on n'apercevait chez lui ni négligence ni faute. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent précipitamment auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et suppliait, implorait son Dieu. Nous allons lire quelques petits fragments dans la suite du livre au chapitre 7. Chapitre 7, tout d'abord les versets 9 et 10, suivis des versets 13 et 14. Donc chapitre 7, 9 et 10, puis 13. Et 14. Nous ne sommes pas à la même époque, nous sommes en 553 avant Jésus-Christ, alors que le chapitre 6 s'inscrit dans l'année certainement 539, voire éventuellement début 538. Donc il n'y a pas une chronologie suivie de chapitre en chapitre. Verset 9, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Verset 13, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des Jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Encore deux versets dans Daniel au chapitre 11, avant-dernier chapitre, consacré d'une manière particulière, en tout cas en partie, à cette préfiguration de l'Antichrist en la personne du tristement célèbre Antiochus Épiphane, roi usurpateur même, roi de Syrie, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, dans le cadre de toute la tourmente engendrée par les méfaits abominables de ce terrible personnage, nous avons au verset 32 et 33 un petit joyau très lumineux. Donc, cet Antiochus Épiphane séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, c'est-à-dire des Juifs qui sont tout à fait disposés à abandonner le judaïsme, à adopter les coutumes grecques, puisqu'il y avait une forte poussée d'hellénisation, comme on dit, qui était le fait de ce personnage. Et donc, ils étaient vraiment prêts à abandonner leur identité juive et tout ce qui faisait le culte de l'ancienne alliance. Et puis, contraste subitement, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Très beau texte. Il n'est bien sûr pas ici question de simple connaissance de Dieu cérébrale, intellectuelle, théorique. Le terme connaître ici est un terme extrêmement fort, puisqu'il est parfois utilisé dans les Écritures pour évoquer l'intimité de la connaissance dans la sexualité. Adam connut Ève, sa femme, c'est le même terme. Terme très fort, donc d'intimité, de partage, de don de soi à l'autre réciproquement. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, qui aimeront leur Dieu, agiront avec fermeté. Et nous avons en Daniel un échantillon de ces hommes qui, plus tard, donc au IIe siècle avant Jésus-Christ, vont souvent payer de leur vie leur fermeté dans le témoignage liée à cette culture d'une étroite relation avec Dieu. Et le texte ajoute, et les plus sages, les plus clairvoyants, pourrions-nous traduire, ce serait encore plus proche de la pensée du texte, les plus sages, les plus clairvoyants, les plus réfléchis, parmi eux, donneront instruction à la multitude. Et c'est ce qui s'est passé au IIe siècle avant Jésus-Christ. Enfin, un dernier passage. Dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, donc vers la fin du Nouveau Testament, Épître aux Hébreux, chapitre 10, et vous savez combien l'Épître aux Hébreux plonge ses racines dans la loi mosaïque, notamment, et dans les grandes figures de l'Ancienne Alliance. Et dans Hébreux, au chapitre 10, nous lisons simplement pour le moment les versets 19 à 22. Hébreux 10, 19 à 22. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée, une entrée hardie, assurée, dans le sanctuaire, par la route nouvelle, on pourrait rendre par un autre mot récente. L'idée, le mot d'ailleurs signifie ceci, la route nouvellement inaugurée, récemment inaugurée, route nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère ou véridique, un cœur droit, le terme a donné le mot vérité, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ainsi que notre frère l'exprimait dans sa prière. Nous avons considéré l'importance de l'endroit, du lieu de rencontre privilégié avec le Seigneur, la tente de la rencontre, disions-nous, et nous avons longuement et de manière très variée, imagé, illustré, pour bien pouvoir l'adapter à nos situations, à nos vies personnelles. Nous avons aussi commencé à évoquer l'importance de la direction de notre vie de prière, en nous laissant guider simplement par cette constatation dans l'attitude de Daniel, qui donc se retire non seulement dans sa maison, mais aussi dans la chambre supérieure, son lieu à lui, avec cette particularité, c'est que les fenêtres de cette chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et bien entendu, il allait lui aussi avec son regard dans la direction par cette ouverture vers Jérusalem. Et cela nous a permis, sans forcer du tout le sens du texte, de réaliser que la vie de prière de Daniel était fortement enracinée dans les Écritures, puisque plus de 4 siècles auparavant, lors de la dédicace du temple de Salomon, Salomon lui-même, dans les différents cas de figure qu'il envisageait prophétiquement pour dans l'histoire du peuple d'Israël, il y avait le cas de figure de l'exil très loin d'Israël. Et cette possibilité, cet invite même à tourner le regard depuis la terre d'exil vers Jérusalem, vers la colline de Sion et vers le temple en particulier, pour parler avec ce Dieu de manière à ce qu'il intervienne, qu'il pardonne, qu'il libère, qu'il restaure, qu'il rétablisse, qu'il reconstruise. Nous avons tenu à profondément enfoncer le clou du caractère indissociable de la prière dans son rapport à la révélation écrite de Dieu, aux Saintes Écritures. Et nous avons étayé tout cela par l'expérience de Daniel lui-même. Vous vous souvenez que nous avons évoqué le chapitre 9 de ce livre qui se situe exactement dans la même période que le chapitre 6. Daniel est octogénaire et là, il a à cœur de plaider en faveur de l'accomplissement des promesses de Dieu concernant la fin de l'exil et du retour des exilés vers leur patrie, vers Jérusalem, pour reconstruire. Et nous avons remarqué que Daniel s'appuie par la révélation de Dieu contenue dans le rouleau de Jérémie. Effectivement, on peut le vérifier à plusieurs reprises, surtout dans les chapitres 20 à 30 du rouleau de Jérémie qui annonce ces 70 années d'exil. Elles sont presque écoulées à 3 ou 4 années près. Et Daniel implore le Seigneur pour que sa promesse puisse s'accomplir. Et ceci nous a amené à nous pencher sur le berceau, ou sur deux berceaux, et ceux d'un petit bébé Daniel et d'un autre petit bébé Ézéchiel. Là, au cœur de ce merveilleux bouleversement dans la cité de Jérusalem, à la cour royale, alors que le roi Josias et sans dessus dessous, dans cette redécouverte de la loi de Dieu, du rouleau du Deutéronome, et tout ce qui s'ensuit avec toute cette équipe de personnages, hommes et femmes, qui entourent ce roi, qui font équipe avec lui, combien c'est beau. Ça a été certainement une des séquences les plus belles de l'histoire du royaume de Juda. Et nous avons vu comment Daniel et Ézéchiel ont grandi avec quelques autres aristocrates, fines fleurs pour l'avenir de ce pays, dans cette ambiance, dans ce climat et surtout avec cette dimension exemplaire de leurs aînés, qui n'étaient pas des théoriciens de la religion juive, mais des praticiens d'une relation intime avec le Seigneur, solidement fondé sur les Écritures. Importance donc de maintenir en permanence ce mariage indissoluble dans la pensée de Dieu entre la prière et ce qui la nourrit pour qu'elle soit dite dans la volonté de Dieu, les Saintes Écritures. Nous avons ensuite ouvert, toujours dans ce que nous suggère cette petite précision, fenêtre de la chambre supérieure ouverte dans la direction de Jérusalem, nous avons ouvert un second grand paragraphe que nous n'avons fait que commencer. Et nous avons remarqué que nous avons là une triple suggestion à l'intérieur d'une idée forte. Le cœur de Daniel n'était pas à Babylone, mais à Jérusalem. Selon l'indication aussi de Jérémie 51-50, que Daniel a su pratiquer. Le cœur de Daniel était sur la colline du Temple, et le Temple suggérait inévitablement, incontournablement, même aujourd'hui, tout lecteur assidu des Écritures, quand il pense au Temple, pense à trois dimensions. On ne peut pas faire autrement, et bien entendu, nous l'avons vu, on pense d'abord à la gloire de Dieu, à cette manifestation particulièrement sensible, impressionnante, de la pesanteur de Dieu, de l'influence de Dieu, de la densité de Dieu, de la lourdeur surabondante de Dieu, en richesse, en puissance, en éminence, puisque c'est là le sens fort et premier du terme « gloire », que l'on va d'ailleurs, c'est intéressant, retrouver dans l'un des 10 commandements, celui qui concerne la relation entre les enfants et les parents. « Honore ton père et ta mère ». Le verbe « honorer », c'est le verbe qui a la même racine que le mot « gloire ». C'est-à-dire, dans ta vie de tous les jours et aux différents âges de ta vie, donne à ton père et ta mère le juste poids qui est celui que Dieu leur donne. Alors, il y aurait là beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas notre thème. Mais c'est pour vous montrer, n'est-ce pas, les applications de la gloire, y compris dans la vie familiale, dans l'éducation des enfants, dans les relations entre enfants et parents. La gloire de Dieu. Dans sa situation difficile, avons-nous dit, David contemplait la gloire de Dieu. Constante. Dans l'intercession, dans la prière, dans les requêtes, dans l'approche de Dieu, par les figures, entre guillemets, les plus éminentes que nous avons dans les Écritures et qui nous ont laissé des échantillons de leur vie de prière, de par la souveraineté de Dieu. Qu'il s'appelle Néhémie, qu'il s'appelle Josaphat, donc qu'il s'appelle Daniel, qu'il s'appelle Jérémie, quel qu'il soit, qui qu'il soit, lorsqu'il prie, y compris en situation difficile de pression, d'hostilité, de danger, d'angoisse, l'ennemi est aux portes, il se sent misérablement faible et vulnérable, mais il commence par exalter la gloire de Dieu. Et en particulier la gloire de Dieu, la pesanteur de Dieu dans le domaine de sa puissance, de sa grandeur en tant que créateur du cosmos, des univers, et bien entendu de la terre et de tout ce qu'elle renforme. La gloire dans le domaine de la majesté de Dieu, la gloire de Dieu dans le domaine de sa souveraineté absolue, sur tout être, visible et invisible, à l'œuvre dans ce cosmos, d'une manière ou d'une autre. Importance dans nos vies d'une vision juste de Dieu, être imprégné de sa grandeur. Devenir théocentrique, centré sur Dieu. Apprendre à regarder toute chose en ayant comme point de repère au départ le regard de Dieu sur les éléments de l'existence. Alors nous aurions pu choisir dans le livre de Daniel quantité de passages en dehors de Daniel 2 que nous lisions hier soir, et dans lesquels cette souveraineté absolue, cette puissance, cette majesté incommensurable sont exaltées aussi bien par Daniel et ses compagnons que par les rois païens, par Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, après 7 années où il va se retrouver complètement humilié à cause de son orgueil incommensurable et atteint d'une maladie, d'un dérangement du cerveau, qu'on retrouve dans la lycanthropie, qui est cette mentalité dérangée qui fait que l'on pense que l'on se trouve transformé en loup. Mais là, c'était pas un loup simplement, c'était un bœuf, n'est-ce pas? Notre grand roi de Babylone se retrouve à 4 pattes en train de brouter dans les jardins du palais de Babylone. Et il dit lui-même, c'est quand je levais les regards vers le ciel que la raison me revint. Et il commence à exalter ces dimensions de la gloire de Dieu que nous sommes en train d'évoquer. Et cette souveraineté absolue, ce fait, comme Daniel le dit, qu'il incline le cœur des rois dans sa main comme des courants d'eau, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Vous avez sans doute entendu parler de John Newton, dont nous avons d'ailleurs une bonne biographie, depuis un petit nombre d'années, qui nous a laissé, en tout cas traduit en français, ce magnifique cantique qui a fait le tour de la terre, grâce infinie. Il en a écrit des milliers. Mais avant d'écrire des cantiques, il a écrit des lettres très sombres dans sa propre vie et sur le dos des esclaves qu'il transportait sur ses bateaux. Trafiquant d'esclaves, tombant de déchéance en déchéance, menant une vie abominable, n'est-ce pas ? Et puis un jour, pris dans une terrible tempête, où il croit que son dernier jour est arrivé, sur un de ces bateaux qui transportent les esclaves, cet homme finit par tomber à genoux parce qu'il se souvient de ce qu'il a appris de la miséricorde de Dieu. Et il fait appel à la miséricorde de Dieu, il se convertit à Jésus-Christ au sein de cette terrible tempête. Et Dieu l'appelle à son service. Et il va donc non seulement avoir un merveilleux ministère de berger, mais aussi écrire un grand nombre de remarquables cantiques. Et il écrira ceci, nous sommes donc au 18e siècle essentiellement, il est décédé au début du 19e. « Les rois de la terre, écrit-il, troublent le monde sans cesse de leurs ambitions. Ils s'attendent à tout conquérir, souvent sans plus noble motif que la satisfaction de leurs propres passions. Néanmoins, en tout ce qu'ils entreprennent, ils servent le grand roi et seigneur et accomplissent ses desseins. Ils les utilisent pour infliger le châtiment prescrit à l'égard de ceux qui transgressent sa volonté ou pour ouvrir une porte à l'évangile. Ils ont un but en vue. Dieu en accomplit un autre. » Et ça, c'est exactement, on a l'impression de lire une paraphrase de certains passages du livre du prophète Jérémie. Quand il appelle de la part de Dieu ce potentat abominable qui a régné si longtemps, Nebuchadnezzar, le serviteur de l'Éternel. Et il y a de la même manière aujourd'hui des potentats dans ce monde qui sont, que nous le voulions d'ailleurs ou non, des serviteurs de l'Éternel. Oh, qui seront châtiés pour leurs exactions, leur abus de pouvoir, leur cruauté, leur malhonnêteté, mais qui néanmoins sont sous le contrôle absolu du Dieu parfaitement souverain. Et j'ai sous les yeux à cet égard une réflexion d'un serviteur de Dieu dont j'apprécie aussi beaucoup le ministère actuel, aussi de rédaction de livres aux États-Unis, qui écrit, lui, en tant que citoyen des États-Unis, et je lui en laisse la responsabilité, mais je le rejoins, il écrit ceci dans un de ses livres. « Je me souviens fort bien de l'ascension rapide et de l'énorme popularité de l'ensemble du clan Kennedy lorsqu'ils sont apparus sur la scène dans les années 1960. On aurait dit des météores. On avait alors le sentiment qu'on aurait des Kennedy au pouvoir pendant 2 ou 3 décennies. Qu'est-il arrivé ? En un court laps de temps, quelques événements d'une rapidité fulgurante changèrent tout. John et Robert furent assassinés, Ted se trouva profondément marqué par un scandale et un mariage brisé. Qu'arriva-t-il en réalité ? Personne ne peut vraiment l'expliquer, mais c'est comme si Dieu avait dit à une famille entière qui semblait devoir gouverner pour longtemps, « Retourne, famille Kennedy. Dans sa souveraineté, il élève l'un et abaisse l'autre. Notre Dieu contrôle toute chose. » Et c'est ce dont nous devons toujours nous souvenir quand nous prions. Nous souvenir que nous nous approchons d'un Dieu qui a du poids. D'un Dieu tout-puissant. Mais ce n'est qu'un aspect de sa gloire. Et nous ne pouvons pas aller plus loin sans considérer l'autre aspect de sa gloire, tellement important dans notre vie de prière et dans notre vie tout court. À savoir que ce Dieu-là a aussi une autre dimension de gloire, inséparable de la première. Dieu est indissociable dans son caractère. Il est parfaitement un et cohérent et harmonieux dans son caractère. Cette autre dimension de sa gloire, c'est ce que j'appelle la gloire de sa grâce. La gloire de sa grâce. Et la gloire de la grâce de Dieu apparaît déjà de manière tellement sensible dans l'Ancien Testament. Et j'aime ici évoquer ce rendez-vous unique dans l'histoire de l'Ancienne Alliance entre Moïse et l'Éternel sur cette montagne qui pourtant symbolise tout d'abord le don de la loi, cette montagne qui faisait peur à tout le peuple d'Israël rassemblé dans la plaine, qui effrayait intensément Moïse lui-même, avec toutes ces manifestations météorologiques, n'est-ce pas, mais qui étaient l'expression même de l'approche présence sensible de Dieu. Et pourtant, au cœur de ces turbulences, de ces manifestations terriblement impressionnantes à vous faire mourir sur place, une explosion de la générosité inouïe de Dieu sur cette montagne. Un Moïse qui, pendant un temps, plaide auprès de Dieu parce que le peuple d'Israël vient de se prostituer de manière absolument lamentable après avoir connu une délivrance phénoménale de l'esclavage égyptien, n'est-ce pas ? Il vient donc d'ériger un veau d'or en disant « Mais voilà, voilà le Dieu qui t'a sorti d'Égypte. » On identifie l'Éternel au veau d'or. Et donc, dans ce plaidoyer, il arrive un moment où ce Moïse, qui est tellement passionné aussi de Dieu, dans cet échange bouleversant d'Exode 32, 33 et 34, subitement, une parole sort des lèvres de Moïse, il n'a pu l'empêcher. Il y a tout un crescendo dans le texte. Ô Seigneur éternel, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu est désireux de lui montrer sa gloire. Mais s'il lui manifestait sa gloire toute puissante, celle que nous avons résumée en quelques mots, s'il se révélait de manière entière, sans filtre en quelque sorte, dans sa toute-puissance, dans sa justice qui est un feu dévorant, dans sa sainteté absolument parfaite, c'est ce qu'il dit, mais nul ne peut me voir et vivre. Mais néanmoins, je vais exaucer ta prière. Et je vais te montrer ma bonté. Je vais me révéler à toi dans la gloire, comme tu le demandes, mais dans la gloire de ma grâce. Tu vas découvrir la beauté de mon amour. Et tu sais, Moïse, elle est insupportable. Mon amour est aussi insupportable que ma puissance. Je me dois donc de prendre des précautions infinies pour que tu restes en vie. Alors voilà, je vais te cacher dans le creux du rocher. Certainement une caverne. Dans la tradition juive, on la confond avec la caverne dans laquelle Élie, le dépressif, s'est réfugié. Et non seulement je vais te mettre là, dans ce creux, mais je vais te couvrir de ma main. Et en plus, et ça c'est encore l'amour de Dieu qui est esprit, mais n'est-ce pas, on a l'impression qu'il a, il est là comme personne en chair et en os, n'est-ce pas? Qui dit, je vais te couvrir de ma main et tu me verras par derrière. Si je te montrais ton amour dans le face-à-face, si tu voyais la face de mon amour, ce serait insupportable. Tu verras donc mon amour par derrière. Et alors, arrive ce moment absolument bouleversant où, après s'être levé de bon matin, notre ami Moïse, ayant taillé des tables, les nouvelles tables, pour la nouvelle, la deuxième édition de la loi, il monte, verset 5 du chapitre 34, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là, auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il proclame son identité. Il lui dit, voilà qui je suis. Derrière le nom se cache toute l'identité de la personne. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lente à la colère, riche en bonté. Je l'ai dit hier, certainement le plus beau mot de l'Ancien Testament pour décrire l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dans sa loyauté, dans sa solidité, dans sa vérité, l'amour de Dieu dans ce contrat avec le peuple d'Israël et avec tous ceux qui se tournent vers lui, où, quelles que soient les tempêtes, Dieu va garder un amour constant, inconditionnel. Il ne va pas plaquer en disant « je t'aime plus, c'est fini, je te laisse tomber ». Un amour qui coûte, un amour patient, miséricordieux, bienveillant. Quantité de termes sont utilisés dans les traductions françaises pour évoquer ce seul mot. Et combien de fois il m'est arrivé dans l'enseignement de ce texte d'évoquer la traduction révolutionnaire avec du « apprendre et du à laisser » d'André Chouraki, ce révolutionnaire de la langue, mais qui est allé beaucoup trop loin, et dont les convictions théologiques ne sont pas les nôtres. C'est un universaliste, n'est-ce pas? Il voit le salut auprès de n'importe quelle divinité, pourvu qu'on la serve fidèlement. Mais ici, il a trouvé un petit joyau, puisqu'il rendra le texte par cette expression « riche ou abondant en chérissement ». Le chérissement de Dieu. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Ce terme figure, tenez-vous bien, quelque 123 fois dans le psautier, dans l'ensemble des psaumes. Quand on me dit que l'amour et la bonté du Dieu de l'Ancienne Alliance, c'est quelque chose de quasi inconnu, que le Dieu de l'Ancienne Alliance doit être opposé au Dieu de la Nouvelle Alliance, c'est un Dieu sanguinaire qui se met en colère, etc., c'est pas vrai. La gloire de la grâce de Dieu explose sur la montagne même de la loi. Souvenons-nous-en toujours. Alors je continue ce texte. Riche en bonté et en fidélité ou encore en vérité. Racine de... Enfin, il y a derrière une racine que nous connaissons bien puisqu'elle a donné, je l'ai déjà dit ici, en français, le mot « amen ». Émet ici, racine « amen », qui donne toute une dimension de vérité. Parfois, justement, le mot est rendu par « vérité » dans certaines versions, « fidélité » dans d'autres, à cause de la variété de sens de cette racine qui a donné notamment le mot « amen » que nous utilisons dans nos prières. « Amen », se tenir fermement, être stable, ce à quoi on peut se fier. Il y a une idée de solidité, une idée d'authenticité. « Amen » et « émet » Et il y a un troisième terme encore, Emouna, terme très riche dans l'Ancien Testament, traduit par foi également. Le juste vivra par la foi, c'est ce terme qui est utilisé, ce qui correspond exactement aux conditions données, ce qui mérite confiance, le refus du mensonge, toute une dimension d'un Dieu loyal, d'un Dieu de vérité, terme extrêmement fort. Un Dieu riche en chérissement, en vérité, en fidélité. Les rabbins ont utilisé ce petit mot hébreu, émet, pour dire que c'était un mot très important dans les Écritures parce qu'il était composé en hébreu de trois syllabes. La première, de trois consonnes même simplement. La première consonne, c'est la première de l'alphabet hébreu. La deuxième consonne du mot, c'est la consonne du milieu de l'alphabet hébreu, exactement le milieu. Et la troisième consonne est la dernière consonne de l'alphabet hébreu. Et ils disent, mais c'est un symbole. De la même manière que ce mot est composé de ces trois consonnes situées au début, au milieu, à la fin, la fidélité, la vérité de Dieu, la solidité de Dieu, la loyauté de Dieu, l'authenticité de Dieu, c'est le message qui va de l'alpha à l'oméga de la parole de Dieu. Et le texte continue, riche en bonté, en fidélité, qui conserve son amour. C'est curieux, n'est-ce pas? C'est exactement le même mot que le mot traduit en bonté ou en bienveillance dans nos versions. C'est-à-dire que le même mot revient deux fois. Et donc on l'a rendu par deux mots différents, ici, qui conservent son chérissement, dirions-nous, un amour loyal et constant. Et il le fait jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché ici, le péché dans le sens de rater la cible, de manquer le mille de la cible de la volonté de Dieu. Et à cause de cette mention de la miséricorde, la compassion de Dieu qui pardonne, le jour du Yom Kippour, le Yom Kippour, le jour du grand pardon, le jour des expiations, au mois d'octobre généralement, les Juifs vont lire ce texte et répéter de nombreuses fois ces versets 6 et 7 en confessant leurs péchés et en s'appuyant sur ces versets pour demander pardon à Dieu et implorer sa miséricorde. Et puis par contraste, hein, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Hein, il n'en perd pas sa sainteté. Hein. Généralement, quand nous parlons de l'amour de Dieu, nous oublions sa sainteté. Or, l'amour est partie prenante de sa sainteté. Il n'y a pas d'un côté l'amour, de l'autre la sainteté. Dans la sainteté de Dieu est englobé son amour. Il n'y aurait pas d'amour de Dieu s'il n'y avait pas la sainteté de Dieu d'abord. Parce que dans les Écritures, la sainteté de Dieu, c'est l'essence même de Dieu. C'est la nature même de Dieu. Et à l'intérieur de cette sainteté de Dieu, Vous avez en particulier le mariage merveilleusement harmonié d'une justice parfaite et d'un amour parfait. Et cette justice parfaite et cet amour parfait ont vécu dans cette harmonie, dans ce... Donc ce Dieu-là ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants, sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième, à la quatrième génération. Je ne peux pas maintenant développer ce texte, mais Dieu n'est pas arbitraire. Il y a une multitude d'autres passages qui responsabilisent chacun pour son propre péché. Mais Dieu est clair. Inévitablement, si je vis une vie désordonnée, par toutes sortes de canaux, j'entraîne la génération qui va me suivre vers une vie du même type. Sauf si mes descendants rencontrent Jésus-Christ, alors une grande partie de la loi d'hérédité disparaît. Oh, il y a des éléments qui restent. Mais une grande partie de cette loi d'hérédité disparaît. La seule rupture possible de ce passage d'une génération à l'autre, c'est quand l'enfant, à quelque âge que ce soit, enfin reçoit le Christ dans sa vie et peut alors vivre une qualité de vie que les générations passées de sa propre famille n'ont certainement jamais connue. Alors n'oublions pas la gloire de sa grâce dans notre vie de prière. Bon, je souhaite que, à la suite de tout ce que nous aurons vécu depuis mercredi, quand nous avons nos moments de prière personnelle dans notre lieu, nous entendions la voix intérieure du Saint-Esprit nous dire attention, souviens-toi de ces aspects de ma gloire, parce qu'ils vont transfigurer tes situations. Et ils vont modifier le contenu de ta prière. Nous avons évoqué Spurgeon, né en 1834, donc en Angleterre, par un soir d'hiver, dans des circonstances étranges. Il se convertit à Jésus-Christ en 1849. Et en 1850, il va écrire une lettre à sa maman qui passe, semble-t-il, par des moments de dépression. Il est donc nouveau-né en Christ. Il a 15 ans. Écoutez ce qu'il lui écrit. Les moments de ravissement, les heures saintes de communion, les jours bénis par le soleil de sa présence sont des gages de gloire sûres, certaines, infaillibles. Souviens-toi des œuvres de la Providence pendant cette année. Avec quelle clarté tu as vu sa main dans des choses que les autres appellent chance. Dieu qui a mis le monde en marche a utilisé les ressources de son vaste cœur et de sa pensée pour toi. Lui qui compte les cheveux de notre tête et nous protège comme la prunelle de ses yeux, ne t'a pas oublié. Mais il t'aime toujours d'un amour éternel. Les montagnes n'ont pas encore été ébranlées, les collines n'ont toujours pas chancelé. Jusqu'à ce que cela arrive, nous pouvons être sûrs de la sécurité de son peuple. J'ai passé quelques semaines à relire tout ce que nous avons en langue française de notre chère sœur près du Seigneur Corrie ten Boom. Nous avons quelques ouvrages, j'aime de temps en temps les relire, et j'ai été une fois de plus particulièrement touché par certains passages concernant cette femme de Dieu qui est partie auprès du Seigneur, je crois le jour de son anniversaire, elle devait être dans sa 91e année, si je me souviens bien, ou à peu près. c'était en 1983, je crois, et qui avait tellement souffert en camp de déportation et de concentration à Ravensbrück aux côtés de sa sœur Betsy, pour avoir, en tant que croyant avec sa famille en Hollande, caché des Juifs, pourchassé par les nazis. 96 000 femmes ont été mises à mort à cette époque, dans ce camp. Elle fut donc libérée grâce à une erreur administrative prévue dans le plan de Dieu, parce que Dieu l'a mandatée pour un ministère extraordinaire qui s'est étalé sur des dizaines d'années ensuite, alors qu'elle avait plus de 50 ans déjà. Et d'ailleurs, toutes les femmes qui avaient pratiquement son âge et qui étaient dans ce camp au moment où, juste après Noël, en fin décembre 1944, elle était libérée, toutes les femmes, les autres femmes, ont été mises à mort dans la semaine suivante. Voyant sa sœur Betsy, beaucoup plus fragile, un peu plus âgée qu'elle, dépérir à vue d'œil dans ce camp, Betsy, femme de prière, d'une douceur, le cœur au ciel dans une situation tragique, Corrie se révoltait souvent. Et elle a écrit ceci. J'ai souvent entendu des gens dire comme Dieu est bon. Nous avons prié qu'il ne pleuve pas pour le pique-nique de l'église et voyez la magnifique température que nous avons. Oui, Dieu est bon lorsqu'il envoie une belle journée ensoleillée. Mais il était également bon lorsqu'il permit que ma sœur Betsy meure de faim devant mes yeux dans un camp de concentration nazi. Je me souviens d'une fois où j'étais très découragé dans ce camp. Tout autour de nous était sombre, mon cœur était plongé dans les ténèbres. Imaginez, c'est une parenthèse, entre 35 000 et 40 000 femmes, rassemblées à 3h30, 4h du matin, dans la froidure de l'hiver, pour répondre à l'appel de leur nom. Et bien entendu, avec une telle population, c'était des heures d'appel, et des appels que l'on recommençait même parfois pour torturer ces femmes de cette manière. Et je me souviens comment elle explique qu'un jour elle n'en pouvait plus ce matin-là, et elle a subitement entendu le chant d'une alouette. Et ça a été un message de Dieu. Parce que l'alouette a cette particularité, c'est que tant qu'elle est dans son nid, elle ne chante pas. Quand elle quitte son nid, elle commence à chanter. Et plus elle s'élève haut dans le ciel, plus son chant retentit. Elle déploie toutes ses capacités de chant, plus elle monte. Et au fur et à mesure qu'elle redescend vers son nid, son chant semble progressivement s'éteindre pour s'arrêter tout à fait. Une fois qu'elle a retrouvé son nid. Et ça a été pour elle comme une bouffée de l'amour de Dieu dans cet enfer de Ravensbrück. Il était donc également bon Dieu. Lorsqu'il permit que ma sœur Betsy meure de faim devant mes yeux dans un camp de concentration nazi, je me souviens d'une fois où j'étais très découragé dans ce camp. Tout autour de nous était sombre, mon cœur était plongé dans les ténèbres. Je me souviens d'avoir dit à Betsy que je pensais que Dieu nous avait oubliés. Non, Corrie, dit Betsy, il ne nous a pas oubliés. Souviens-toi de sa parole. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Et Corrie de conclure ainsi. Auprès de Dieu, il y a un océan d'amour. Il y en a amplement pour tous. Que Dieu vous accorde de ne jamais vouloir, de ne jamais douter de cet amour victorieux, quelles que soient les circonstances. Et voyez-vous, Moïse, pour revenir à lui, a été tellement bouleversé par cette révélation de l'amour de Dieu insupportable sur le Sinaï, qu'il a dû répéter je ne sais combien de fois le contenu de la révélation qu'il avait reçue, puisque elle est partie ensuite de génération en génération, à travers le peuple d'Israël, n'est-ce pas ? Au point que plusieurs prophètes se sont succédés et ont repris exactement la formulation d'Exode chapitre 34. Et nous avons dans l'Ancien Testament 10 répétitions d'Exode 34 et de ces versets. C'est devenu une sorte de refrain destiné en permanence à exalter les compassions, la miséricorde d'un Dieu lente à la colère et qui donne toujours sa préférence au pardon. La préférence de Dieu va toujours au pardon. Mais il y a des conditions à remplir. Alors si j'enfonce ce clou, c'est parce qu'il faut que notre vie de prière soit de plus en plus imprégnée de ces dimensions. Vous ne trouvez pas que ça dilate notre cœur, nos poumons spirituels, hein? On a l'impression de respirer un air pur sur des hauts sommets. Et nous en avons besoin dans ce monde tellement pollué. Alors souvenons-nous de cet aspect. Et dans son amour, Dieu nous a accueillis. Dieu nous a accueillis au nom de son Fils Jésus-Christ. Et déjà, dans le livre de Job, il nous est dit que Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Ça, c'est le paradoxe, n'est-ce pas, des Écritures. Généralement, les puissants rejette facilement. Or, Dieu est puissant, et quand nous disons puissant, c'est tout puissant. Et il ne rejette personne. C'est un Dieu accueillant. Ce qui a fait dire à notre ami Tozer, quelle paix pour le cœur chrétien de comprendre que notre Père Céleste ne s'écarte jamais de lui-même. En venant à lui à tout moment, nous n'avons pas à nous demander si nous le trouverons d'humeur réceptive. Il est toujours réceptif à la misère et aux besoins, ainsi qu'à l'amour et à la foi. Il n'a déterminé aucun horaire d'ouverture, ni aucune période de congé. Il ne change pas non plus d'avis sur quoi que ce soit. Aujourd'hui, en ce moment, il ressent exactement la même chose pour ses créatures, les bébés, les malades, les déchus, les pécheurs, qu'au moment où il envoya son Fils unique dans le monde afin de mourir pour l'humanité. Dieu ne change jamais d'humeur. Son affection et son enthousiasme ne refroidissent jamais. Aujourd'hui, son attitude envers le péché est identique à celle qui le poussa à chasser le pécheur du jardin d'Éden, tandis que son attitude envers le pécheur est identique à celle qui le poussa à tendre les mains et à s'écrier « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » C'est pourquoi notre ami Daniel ne pouvait faire autrement en tournant les regards dans la direction de Jérusalem, de la colline de Sion, du temple. Il ne pouvait faire autrement que de penser au sang des sacrifices. C'était encore une dimension absolument incontournable. Vous vous souvenez sans doute, ce qui était là hier soir, que nous avons lu 2 Chroniques, chapitre 7, versets 1 à 3, lors de la dédicace et de la prière de dédicace du temple par Salomon, Deux Chroniques, chapitre 7, versets 1 à 3. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel, consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, adorèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Réminiscence d'Exode 34. Ça, c'est un refrain qui revient tout au long des Écritures, dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Puis alors, on va vers les versets suivants, c'est-à-dire les versets 4 à 7. Tout de suite après, le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Bon, pas en une seule journée, la fête a duré, hein. Ainsi, le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Les sacrificateurs se tenaient à leur poste, les lévites aussi, avec les instruments faits en l'honneur de l'Éternel par le roi David pour le chant des louanges de l'Éternel, lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel en disant « Car sa miséricorde dure à toujours sa fidélité. » C'est à nouveau cet amour patient, constant, ce mot clé pouvant être traduit par grâce dans l'Ancien Testament. Les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux et tout Israël était là. J'imagine Daniel qui pensait aux rivières, aux fleuves de sang qui coulaient depuis l'autel des sacrifices. On ne pouvait pas penser au temple sans penser à l'autel des sacrifices. Et à ce sang qui coulait jour après jour et qui là a coulé à flot. Le regard intérieur de Daniel, disons-le en langage de la Nouvelle Alliance, était tourné vers la croix. La gloire de Dieu et la croix. Et nous en avons des preuves. Nous en avons aussi des preuves parce que l'heure même des prières de Daniel était déterminée par l'heure des sacrifices du temple. Il alignait son rythme de prière, ça c'est la suite, sur les heures des principaux sacrifices au temple. Vous en voulez une illustration, vous allez à Daniel 9, dont nous avons lu les premiers versets, cette prière qui date de la même année, avons-nous dit. Et à partir du verset 20, Daniel 9, 20, il témoigne, il explique. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Et ça, c'est une expression au moment de l'offrande du soir qui revient plusieurs fois dans l'Ancien Testament et dans la vie de plusieurs personnages bibliques de l'Ancien Testament. Et elle fait allusion directe à quelque chose que ceux d'entre nous qui étaient présents dès le début de notre étude peuvent encore avoir à l'esprit. Vous vous souvenez qu'en évoquant l'importance de la tente d'assignation, la tente de la rencontre, hein, 150 fois présentée dans l'Ancien Testament avec cette expression, nous l'avons placée dans le cadre d'un texte qui évoque le sacrifice, l'holocauste perpétuel. Un holocauste d'un agneau âgé d'un an, qui était en excellente santé et qui était offert entier sur l'autel le matin. Chaque journée en terre d'Israël s'ouvrait avec cet holocauste qui annonçait le don total de Jésus-Christ. Dans les autres sacrifices, il y avait des parties qui étaient enlevées, il y avait des parties qu'on mangeait, il y avait d'autres qu'on allait brûler à l'extérieur, n'est-ce pas, sur le dépotoir du coin, mais pas en ce qui concernait l'holocauste. La victime, une fois immolée, était coupée et tout, absolument tout, était brûlé, y compris la tête. Annonce de ce don total de Jésus-Christ. Et puis il y avait le second holocauste le soir, entre les deux soirs, c'est-à-dire à la tombée de la nuit, avant que la nuit soit totale. Deuxième holocauste, à nouveau un agneau. Et donc chaque journée du peuple d'Israël était encadrée par ces deux holocaustes qui annonçaient en permanence, qui préfiguraient en permanence l'érection de la croix sur une colline à l'extérieur des murailles de Jérusalem et le corps d'un supplicié suspendu et cloué entre deux brigands, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, je vous donne simplement les indications d'autres versets dans l'histoire d'Élie, dans 1 Rois 18:36, dans cette confrontation entre les faux prophètes de Baal et l'Éternel et le prophète Élie lui-même. Dans 1 Rois 18:36, il est aussi question de la même manière de ce moment, 1 Rois 18:36. Au moment de la présentation de l'offrande, et c'est la même expression, au point d'ailleurs que la Bible du Semeur rendra de cette manière, à l'heure habituelle de l'offrande du soir. Voyez. Donc Dieu a choisi, en utilisant Élie, cette heure de l'holocauste perpétuel du soir. Élie, le prophète, s'avança et dit « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël ». Donc il exprime une courte prière à l'Éternel et le feu de Dieu tombe sur le sacrifice. Et vous pourrez voir d'autres passages allant dans la même direction dans Esdras chapitre 9 versets 4 et 5, 2 Rois 3:20, etc. N'est-ce pas ? Donc l'heure même des prières de Daniel étaient déterminées par l'heure des sacrifices du temple. Donc dans sa pensée, il ne pouvait détourner son cœur de la croix. Combien cela est important dans la vie de prière. Hébreux chapitre 10, versets 19 et 20, que nous lisions tout à l'heure en introduction. Nous avons une libre entrée, une entrée hardie. Nous pouvons y aller dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints. Cet endroit qui, dans le temple de Jérusalem, était absolument interdit à tout homme, excepté un seul jour par an, au souverain sacrificateur, qui devait remplir des conditions absolument inouïes pour ne pas être foudroyé sur le champ dès sa pénétration dans la présence de Dieu. Il fallait qu'il entre avec le sang, après s'être purifié lui-même, après avoir changé de vêtements. On le suivait au son, n'est-ce pas ? À l'ouïe. Il fallait entendre ses clochettes. On a plus tard accroché une corde, de manière à ce que s'il était foudroyé dans la présence de Dieu, on puisse en sortir le cadavre du lieu très saint. Rendez compte. Nous avons une libre entrée dans le Saint des Saints. Parce que le voile s'est déchiré. Et il s'est déchiré matériellement, de haut en bas. Non pas par l'intervention d'un couteau, de ciseaux, je ne sais pas quoi, de main humaine,
mais par la main de Dieu. Parce que le sang avait coulé. Le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet agneau, cet agnelé, dit le texte grec de l'Apocalypse, 28 fois dans l'Apocalypse, 28 fois, 4 fois 7, 7 est un chiffre de plénitude absolue, de totalité, d'accomplissement. 4 fois 7, 28 fois, l'agnelé de Dieu au cœur du message de l'Apocalypse. Et une 29e fois, le même terme, pour évoquer celui qui se déguise en agneau. Il a l'apparence de l'agneau, mais quand il ouvre la gueule, c'est une langue de dragon qui sort. Un des grands thèmes de l'Apocalypse. Et je pense ici à cet homme en voyage en Norvège qui se rend pour visiter une certaine église et voilà qu'il découvre en haut du clocher un agneau sculpté. Chose rarissime, il n'avait jamais vu cela, je ne l'ai jamais vu dans ma vie. Et il est tellement bouleversé par cette curiosité incroyable qu'il interroge les passants, les habitants du village. Je dis, mais comment se fait-il ? Et on lui raconte qu'au cours de la construction de l'église, un ouvrier était tombé de l'échafaudage. Ses collègues de travail étaient bouleversés, ils ont descendu le plus vite possible jusqu'au sol en s'attendant à y trouver un cadavre. Et au moment où ils sont arrivés en bas, ils ont regardé dans la rue, ils ont vu leur collègue qui était en train de se relever, à peine contusionné. Mais à sa place, il y avait un agneau écrasé. Il avait bénéficié, par la grâce de Dieu, du passage d'un troupeau de moutons. Et il était tombé juste au milieu du troupeau, et c'était un agnelé qui était mort à sa place. Et on a donc décidé, en souvenir de ces circonstances toutes particulières, pour que jamais on oublie ce miracle, ces circonstances tout à fait providentielles, on a sculpté cet agneau, l'église de l'agneau sculpté. Comment Jésus-Christ s'est substitué à nous. Il n'y a pas de prière digne de ce nom qui ne s'appuie sur cette dimension-là. Nous devons en permanence avoir dans l'esprit, dans le cœur, cette pensez, cultivez que sans le sang de Jésus-Christ, notre prière n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. C'est là aussi Spurgeon qui écrira « Enlevez le sang et le christianisme meurt ». Dans l'Antiquité, chez les Grecs et les Romains, on avait trouvé une méthode d'assistance très simple, mais très belle à la fois. Lorsqu'un voyageur se rendait en pays lointain et qu'il avait besoin d'une recommandation pour être reçu chez quelqu'un, il essayait de trouver un de ses amis pour pouvoir le recommander, qui avait des amis lui aussi, ou de la famille, en pays lointain. Et quand il avait trouvé cet ami, il lui demandait donc s'il était prêt à le recommander. Alors l'ami prenait une petite plaquette de métal ou de porcelaine, une pierre blanche et plate par exemple, qui était brisée en deux morceaux ou découpée en deux parties selon un dessin particulier convenu à l'avance. Ces plaquettes s'appelaient chez les Grecs le symbolon, qui a donné le mot symbole. Et chez les Latins, chez les Romains, tessère. Et donc, cet homme qui désirait recommander son ami qui partait en voyage, envoyait à l'avance un messager qui portait la moitié et qui la présentait au personnage important, souvent, qui pouvait accueillir. Et l'autre partie était remise à celui qui allait entreprendre le voyage. Et ainsi, à l'arrivée, lorsque le voyageur présentait sa partie au personnage important, on regardait si les deux parties s'emboîtaient. Et si elles s'emboîtaient, c'était l'accueil le plus généreux qui soit, même si cette personne était inconnue l'instant d'auparavant. Une entraide totale commençait. C'est un symbole aussi. Christ a brisé pour nous le symbolon de sa vie. Sa vie a été brisée pour nous sur la croix. Il en offre une partie à ma foi. Et l'autre, il l'a déjà présentée lui-même à Dieu le Père en ma faveur. Et je peux m'approcher de Dieu librement, avec hardiesse, avec assurance, dans la mesure où je le fais dans le nom de Jésus-Christ. Il faut que les deux parties s'emboîtent. Je ne peux pas le faire autant au nom de ma notoriété, au nom de mon passé évangélique, au nom de toute mon ascendance, au nom de mes mérites. Non. Je peux me présenter devant Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Notre prière n'a aucun pouvoir en elle-même. Notre prière n'est pas un acte magique. Christ et son sang versé la rend efficace. Et nous devons toujours nous souvenir que la grâce et le pardon doivent être la toile de fond de notre vie de prière. Toujours. Et c'est la raison pour laquelle, pour ne pas m'étendre, j'évoque ici, sur le flanellographe, ce mur qui trop souvent, tout d'abord, sépare l'incroyant du ciel et ne permet pas ce libre accès, même si Dieu, dans son amour, entend la prière des incroyants, faisant briller son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons, et préparant le cœur à recevoir le Fils bien-aimé par des exaucements de prières. Ça, c'est extraordinaire, ce niveau de la grâce de Dieu, cette manière dont sa paternité s'exerce déjà en faveur de ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie, ceux qui ne sont pas encore dans la famille, ceux qui ne sont pas encore des frères et sœurs en Christ. Mais néanmoins, il faut passer par la porte, il faut que le sang de Jésus-Christ intervienne. Mais ensuite, vous avez toute cette liste, et il y en aurait d'autres, mais ce sont des éléments essentiels, ces moellons, ces pierres, ce mur, qui s'érige si facilement dans nos vies de disciples de Jésus-Christ, et qui empêche l'exaucement de nos prières. Et il se pourrait que parmi nous, il y ait des amis qui, en ce moment, soient en crise avec le Seigneur. Parce que par le Saint-Esprit, Dieu leur dit de manière claire, mais comment veux-tu que j'exauce tes prières alors que tu te bats comme un chiffonnier avec ton conjoint? Alors que tu n'as aucun respect pour ton épouse qui est un vase plus fragile que toi. Lisez ces textes, vous verrez de manière si claire toutes les raisons qui font que Dieu, dans sa sainteté pleine d'amour, à notre égard, doit exercer un amour sévère, sévère, à l'endroit de ceux et celles qui, tout en se réclamant de lui, cultivent le péché dans leur vie. Que ce soit l'absence d'esprit de pardon, vous connaissez le contenu du Notre Père concernant le pardon. Alors je vous encourage à relever toutes ces indications, n'est-ce pas, dans Jacques 4, au début de Jacques 4, l'égoïsme dans les requêtes, l'avarice de Proverbe 2:13 dans les relations avec les pauvres, le formalisme et l'hypocrisie, l'incrédulité dans Jacques 1, versets 5 à 7, idolâtrie Ézéchiel 14:3, rancune Marc 11:25, de mauvaises relations entre mari et femme 1 Pierre 3:7, la désobéissance dans Proverbe 28, verset 9, et ici donc Ésaïe 59 tout entier pour le formalisme et l'hypocrisie. Nous aurions pu passer tout un temps, n'est-ce pas? Il faut que le sang de Jésus-Christ passe sur nos consciences, sur nos cœurs. Il faut que nous soyons purifiés pour que nous ayons ce libre accès. Il y aurait là tant et tant d'exemples à prendre. C'est un homme de Dieu qui écrit ceci. Pour pouvoir prier, il faut avoir un cœur de sacrificateur. Il faut avoir appris à se conduire saintement à l'égard des fautes d'autrui, c'est-à-dire à ne pas les collectionner dans sa tête pour les rapporter plus loin, mais à les recueillir dans son cœur pour les porter dans le sanctuaire, sur des mains suppliantes. Les sacrificateurs portent les péchés d'autrui dans le sanctuaire et non parmi les hommes, où en général, chaque faute se trouve multipliée. La bien-aimée du Cantique des Cantiques a des yeux de colombe et non d'épervier. Le diable n'est pas un intercesseur, il est l'accusateur des frères. Un soir, un petit garçon priait avec sa grand-maman et lorsqu'il voulut dire dans sa prière « Si je meurs avant de me réveiller », sa voix se mit à ralentir, à traîner et soudain il se relève et se met à courir en criant « Je reviens tout de suite, grand-maman !» Quelques minutes plus tard, il revient, se remet à genoux, reprend sa prière et quand il a terminé, il explique à sa grand-maman « J'ai commencé à penser à la mort et je me suis rappelé que j'avais renversé les petits soldats de bois de mon frère pour qu'ils se fâchent demain matin. Mais si je meurs cette nuit, je ne veux pas qu'ils voient tous des ordres. Alors, il fallait que j'aille tout remettre en ordre. » Et la chère grand-maman de répondre sagement, « Tu as bien fait, mon garçon. » Bien des gens interromperaient leur prière pour régler leur tort s'ils étaient réellement honnêtes. Mais il nous faut rapidement, mais je me réjouis, terminer par là, évoquer la dernière dimension. Nous avons vu la gloire dans son arc-en-ciel de variété, puissance, majesté et grâce, déploiement de la grâce. Nous avons vu l'importance d'une prière dans le nom de Jésus-Christ. Et non pas, je le dis au passage quand même, d'une prière au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas versé son sang. Au nom de Jésus-Christ dans les Écritures. Même si le Saint-Esprit est Dieu, troisième personne de la Déité. Les Écritures sont claires. S'il n'y a pas un seul texte de la Bible tout entière qui contiennent une prière au Saint-Esprit. Vous n'en avez pas. Hein? Même pas dans Ézéchiel où on a cherché un texte, dans Ézéchiel 37, je crois, cette vision des ossements morts, où il est question d'une injonction par le prophète, dans une vision, à l'Esprit de Dieu pour qu'il pénètre la vie de ces ossements et qu'il y ait résurrection. Mais le problème, c'est que d'une part, c'est une vision. D'autre part, c'est une injonction de la part de Dieu. La suite du texte dit « Ainsi parle l'Éternel, Esprit souffle », c'est-à-dire que c'est Dieu qui parle. Dieu le Père parle à Dieu le Saint-Esprit. Et le prophète n'est que l'instrument, la voix, et ça s'arrête là, dans le cadre d'une vision. Et si nous avions su, au fil de l'histoire, respecter simplement ce silence de la totalité des Écritures, nous nous serions épargnés quantité de désordres, de divisions, par la mise sur un piédestal du Saint-Esprit, dont un des rôles fondamentaux est d'éclairer la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, et de décrypter, d'interpréter, de rendre compréhensible, accessible, la pensée profonde de Dieu à laquelle nous ne pourrions pas accéder sans son ministère. Alors, humblement, refusons-nous à prendre un chemin qui n'est pas clairement celui des Écritures. Ceci dit, par souci de courtoisie, d'amour, ne soyons pas d'une sévérité excessive lorsque, ici ou là, exceptionnellement, un chant qui est une prière au Saint-Esprit est lancé dans un auditoire ou choisi. Je crois que Dieu, sur ce plan, est plus généreux que nous. Mais il faut éviter que cela devienne une habitude. Et quand on est informé et enseigné et qu'on sait ce que la Bible dit, eh bien simplement, humblement, on se soumet. C'est mieux ainsi. Et nous honorons Dieu le Saint-Esprit en nous soumettant aux Écritures qu'il a inspirées. Souvenons-nous. Puisqu'il est, lui, instrument du Père pour nous souffler, en quelque sorte, le message du Père et nous le rendre compréhensible. Troisième dimension, je vais aller vite, mais nous le disons quand même. Peut-être que certains se sont rendus compte qu'il y avait à quelque part une anomalie dans ce que j'ai dit. Mais j'étais obligé de procéder ainsi pour garder cette troisième partie un peu cachée jusqu'ici. Daniel a les regards tournés par les fenêtres ouvertes de sa chambre supérieure vers Jérusalem, vers la colline du Temple, vers le sanctuaire lui-même. Mais le Temple n'existe plus. Le temple n'existe plus. D'où immédiatement ce surgissement de la troisième dimension d'une bonne direction dans la vie de prière, l'espérance. L'espérance. Si Daniel n'avait pas eu d'espérance, si Daniel n'avait pas eu l'espérance de la restauration du temple, si Daniel n'avait pas fait foi aux promesses de l'Éternel prononcées par la bouche de Jérémie et d'autres prophètes, croyez-moi, il aurait laissé ses fenêtres fermées. Mais Daniel savait que s'il n'y avait plus de temple, plus de gloire de Dieu, plus de sacrifices sanglants, et c'est tout le prophète Ézéchiel qui l'indique avec cette gloire de l'Éternel qui quitte progressivement le sanctuaire, puis Jérusalem, et qui s'éloigne pour partir en exil, en réalité, n'est-ce pas? Daniel savait aussi, avec le regard de la foi, que le temple serait rebâti, que la gloire de Dieu reviendrait, que les ruines seraient relevées, que Dieu aurait le dernier mot. Et que le cap des tempêtes à l'extrême pointe sud de l'Afrique deviendrait un jour le cap de bonne espérance. Puisque c'est ainsi qu'il s'appelait et qu'il a fallu Vasco de Gama pour changer le nom de cet endroit qui faisait trembler tous les marins. Un jour, le cap des tempêtes est devenu le cap de bonne espérance. Et notre prière est liée précisément, je dirais aussi sur ce plan, à un changement de cap. Je crois
dans ce monde tellement sombre, dans les circonstances impossibles, si difficiles que nous pouvons parfois traverser dans nos vies, dans ces tunnels de l'incompréhensible et de l'apparente injustice. Je crois que Dieu a le dernier mot. Je crois pourtant qu'il reste fidèle à ses promesses parce que nous marchons par la foi et non par la vue. Et mes amis, malheureux est celui qui prie et qui continue à marcher par la foi, à par la vue, n'est-ce pas ? Celui qui continue à vivre avec ses tripes, avec ses émotions, avec ses sentiments, avec son affectivité. On ne peut pas vivre une vie stable si notre repère est dans le visible, dans le sensible, dans nos sentiments. Il faut être objectif dans notre vie de prière. Et seule la foi qui s'appuie précisément sur la gloire de Dieu et sur la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, sur les promesses du Dieu qui parle, seul celui-ci va pouvoir traverser les tempêtes de la vie sans se faire déplumer du matin au soir. Oh, je pense ici, en Afrique, à ce missionnaire bien loin de sa patrie qui demeurait courageux, tout en souffrant intérieurement beaucoup devant la tombe où allait être ensevelie sa jeune épouse. Et les villageois le regardaient, ce missionnaire. Et l'un d'entre eux de lui dire: il me semble que tu ne pleures pas, mais que tu perces l'horizon. Et le missionnaire, qui était un traducteur des Écritures,